Craig. Bienvenue au balado Les petits caractères. Je suis journaliste. J'ai animé durant 13 ans l'émission La facture à Radio-Canada. Alors, la consommation, j'en connais un petit bout là-dessus. Option consommateur, c'est un organisme à but non lucratif qui vous informe et puis aussi qui défend vos droits depuis 37 ans. Vous imaginez bien que les avocats d'Option consommateur, eux aussi, en connaissent un bon bout. Ensemble, on a eu l'idée de vous présenter deux fois par mois ce balado, un balado qui touche votre vie de tous les jours. Que ce soit, par exemple, un voyage annulé, cette saison, par la compagnie mais pas encore remboursé, un achat en ligne toujours pas livré, comment pouvez-vous défendre vos droits? Avec les avocats d'Option consommateurs, je vais décortiquer tout ça pour que les petits caractères, vous savez, là, ceux qu'on dit jamais, moi non plus d'ailleurs, vous causent le moins de soucis possible. Dans notre dernier balado, on vous a parlé de ce qu'on appelle, entre nous, les pièges de Noël. On a abordé, entre autres, l'idée d'un budget annuel de Noël, vraiment une bonne suggestion à retenir. On vous a expliqué comment fonctionnent les différentes sortes de cartes cadeaux, et puis on vous a mis en garde aussi contre les ventes vraiment trop belles pour être vraies. Aujourd'hui, avec un pied à la fois dans les fêtes et l'autre dans la pandémie, parce que difficile de l'éviter celle-là, on vous parle de la folie des achats en ligne. Bon, on est tous en cabanée, on travaille de la maison, les enfants travaillent tout ça, c'est difficile de décompresser dans un bar, dans un resto ou alors de faire venir des amis. C'est sûr que la tentation est forte de se faire plaisir avec ce qui nous reste comme possibilité, entre autres, magasiner en ligne. Sauf que là, on ne parle quand même pas du magasin du coin. On se parle de la Chine, des États-Unis ou d'ailleurs. Est-ce qu'on peut être protégé par les lois du Québec quand on achète aussi loin que ça? Avec l'avocate Élise Thériault, on vous explique tout ça. Bonjour Élise.
Bonjour Pierre.
Je regardais ça, les chiffres, c'est assez impressionnant, là, les chiffres des achats en ligne. L'an passé, les adultes québécois seulement là, ont acheté pour plus de 12 milliards de dollars de marchandises. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'augmentation, une augmentation d'à peu près 20 % par rapport à l'année précédente. Et le plus gros poste des achats, bon, chose pas étonnant, là, c'est les vêtements, les bijoux et les accessoires. Bon, quand on regarde ce chiffre-là qui est impressionnant, on se demande, bien sûr, comment on est protégé, nous autres, là? On achète aux États-Unis, au Japon, en Chine, partout, là. On est protégé comment, Élise?
En fait, depuis 2010, on a des protections spéciales pour les achats en ligne, puis tous les achats faits à distance. Donc, c'est pas juste bon pour le en ligne, là, c'est bon pour les infopubs, les achats par téléphone, par la poste, par télégramme, par pigeon voyageur, si tu veux.
Mais peu importe où on achète, parce qu'évidemment, les lois d'ailleurs, on peut pas aller au tribunal à Hong Kong ou je sais pas où, là, tu sais, à Wuhan ou peu importe. Là. Mais tu dis qu'on est protégé. La loi québécoise nous protège, nous?
Oui.
De quelle façon ça se fait?
En fait, depuis 2010, on a créé une présomption juridique à l'effet que si tu es derrière ton clavier au Québec, quand tu commandes, c'est la loi du Québec qui s'applique. Parce que normalement, là, comment ça se passe un contrat quand tu es en personne, c'est que le marchand te fait une offre, puis toi, ben, tu acceptes l'offre du marchand, puis tu payes. Et le contrat, il est conclu au moment où le marchand reçoit l'offre et donc au lieu où le marchand reçoit l'offre. Mais quand tu es en distance, le lieu où le marchand reçoit mon acceptation de l'offre, c'est la Chine, les États-Unis, l'Ontario, n'importe où le marchand est. Et ça, on veut pas ça. On veut pas que le contrat soit conclu à l'étranger dans les règles des pays étrangers. Donc, on a fait en sorte que le contrat, il est conclu au moment où moi, derrière mon clavier, je pèse sur « commander », je clique sur le bouton pour confirmer ma commande.
Donc la loi du Québec. C'est un petit peu comme si on était au Québec d'une certaine façon. Là. C'est un genre de fiction, là, si on veut. Dans cette loi, dans ces articles de loi de la protection du consommateur, ça crée des obligations aux commerçants en ligne. Là.
Oui. Le commerçant, il doit d'abord me décrire la marchandise. Puis il doit me dire vraiment toutes les specs, comme on dit en bon français, de la marchandise, parce que contrairement au magasin, je ne peux pas toucher, je ne peux pas essayer, je ne peux pas manipuler. Donc, on doit me décrire la marchandise et ensuite, on doit me donner l'occasion de réviser mon panier, de corriger les erreurs et on doit m'envoyer un courriel de confirmation. et je suis protégée si je me rends compte à un moment dans le processus que je n'ai pas eu la bonne information, j'ai le droit d'annuler le contrat. Et ça, ça peut arriver à trois moments. Ça peut arriver au moment où je reçois mon contrat, donc le courriel de confirmation. Je me rends compte que ce n'est pas ça que j'avais commandé ou qu'il y a une erreur, qu'on ne m'a pas donné la bonne info. J'ai 7 jours pour annuler.
OK.
Ça peut aussi arriver au moment où je reçois ma marchandise. Hein, par exemple, j'achète une paire de chaussures rouges. Je reçois un courriel de confirmation qui me dit que j'ai acheté une paire de chaussures rouges. Je reçois ma marchandise. J'ouvre la boîte, c'est une paire de chaussures vertes. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je n'avais pas eu la bonne information. J'ai 7 jours pour annuler. Le troisième moment où ça peut arriver, c'est le moment où je reçois mon état de compte de carte de crédit. Hein, j'ai commandé une paire de chaussures rouges, je reçois un courriel qui me dit « tu as commandé une paire de chaussures rouges ». Je reçois une paire de chaussures rouges, je reçois mon compte de carte de crédit, je me rends compte qu'au lieu d'être 49,99, c'était 409,99. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je n'avais pas eu la bonne information sur le prix. J'ai 7 jours pour annuler.
Bon, le 7 jours a son importance. Qu'est-ce que je fais? J'appelle le commerçant, je lui écris pour lui dire « Écoute, j'annule » ou je ne sais pas quoi, là, je présume.
Oui, la loi ne prévoit pas de façon spécifique d'avertir le commerçant qu'on veut annuler. Donc, ça peut être fait verbalement au téléphone, ça peut être fait par courriel, ça peut être fait par courrier recommandé. Mais c'est certain qu'une preuve écrite, c'est toujours plus fiable que pas de preuve du tout parce qu'on a fait ça à l'oral. Hein. Les paroles s'envolent, les écrits restent.
Alors, j'annule, j'appelle mon commerçant, je dis j'annule ou je lui écris avec preuve, je lui dis j'annule. Lui, son obligation quand j'annule, c'est quoi?
Lui, il a 14 jours pour te rembourser au complet, incluant les assurances, les frais de livraison. Et si tu veux retourner la marchandise parce que tu l'as reçue, ben, il doit aussi payer les frais pour retourner la marchandise.
OK. Puis si le commerçant ne répond pas ou s'il m'envoie promener dans les pâquerettes, qu'est-ce qui se passe à partir de là?
Bien, à partir de là, tu as un recours spécial qui s'appelle la rétrofacturation. Et la rétrofacturation, c'est le fait pour l'émetteur de carte de crédit d'aller rechercher les fonds chez le commerçant et de les remettre sur ta carte de crédit.
Donc, OK, mais ça, c'est important, là, Élise. Là, c'est une loi. Parce que moi, dans ma tête, je t'avoue que je fonctionnais sous l'ancien régime, même si je l'avais vu passer, les changements dans la LPC. Mais pour moi, c'était un arbitraire, pas du commerçant, mais de l'émetteur de carte de crédit. Ce que je comprends de ce que tu m'expliques des changements à la loi, c'est plus un arbitraire, c'est la loi qui oblige les banques à faire la rétrofacturation.
Tout à fait. Si tu es dans les délais et que ta demande elle est faite par écrit et qu'elle contient toutes les informations qui sont nécessaires, l'émetteur de carte de crédit, il n'a pas le choix de procéder à la rétrofacturation. C'est pour ça que la loi prévoit qu'un commerçant ne peut pas recevoir aucun paiement de toi avant que tu reçoives la marchandise, sauf par carte de crédit, parce que la carte de crédit, c'est le seul mode de paiement qui te protège. Donc, on devrait toujours se méfier d'un commerçant qui te demande de payer par débit virtuel, par transfert d'argent, par chèque ou par un autre moyen ésotérique comme les cartes cadeaux, des codes promotionnels ou autre chose, parce que tous ces moyens-là ne te protègent pas en cas de problème avec le commerçant.
Donc, la carte de crédit, c'est un must absolu quand on achète en ligne. Les banques réagissent comment à ces changements? Ça fait quand même 10 ans que les changements existent, comme tu nous le dis, là. Les banques réagissent comment? Est-ce qu'elles entrent dans ça?
Bien, ce qu'on constate en ce moment, c'est que c'est assez hétérogène. Avec la pandémie, avec le remboursement des billets d'avion, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'arbitraires encore, comme tu disais tantôt, au niveau des banques. Plusieurs banques se permettent de refuser des rétrofacturations s'ils croient que le commerçant a raison. Donc, on a entendu des cas de gens qui nous ont dit « Bien, c'est écrit dans votre contrat qu'il n'y a pas de remboursement, fait que la banque refuse de faire la rétrofacturation. » C'est une discrétion qui n'est pas permise par la loi. La loi dit « Si on est dans les délais, si notre formulaire est rempli puis qu'il est fait par écrit puis qu'il contient toutes les bonnes informations, la banque doit rétrofacturer dans un maximum de 90 jours. Donc, okay, donc c'est assez hétérogène.
C'est très important de repréciser, c'est la loi, ce n'est pas un arbitraire. Les banques n'ont pas à décider si oui ou non elles le font. Elles doivent le faire si on a respecté les conditions imposées par la loi.
Exactement. Mais avant que la rétrofacturation soit officiellement dans la loi, il y avait quand même un processus de contestation. Tu sais, si tu manges au restaurant, ça te coûte 39,99 puis ça passe deux fois sur ton compte de carte de crédit, tu pouvais appeler ton émetteur de carte de crédit puis dire « Regarde, j'ai pas mangé deux fois 39,99 en 5 minutes. » Puis il voyait bien que c'était vrai. puis ils créditaient. Hein, on appelait ça la contestation. Mais ça, ça ressemble quand même à la rétrofacturation. Puis, on voit qu'il y a certaines banques qui semblent être restées dans ce mode-là de contestation, qui est une procédure qui n'est pas encadrée. Puis, ils se permettent donc de refuser des contestations ou de dire, le commerçant, il a contesté ta contestation, fait qu'on crédite, on avait crédité, on va remettre l'argent, on va refacturer sur ta carte de crédit. Il y a beaucoup, beaucoup de cas de figure différents qui se passent puis qui ne devraient pas se passer.
Il t'est arrivé une anecdote dans ce genre-là, là, justement, hein?
Ben oui, tout à fait. La preuve que la procédure de rétrofacturation n'est pas implantée partout, c'est que moi-même, j'avais commandé des robes sur un site louche en Chine en me disant, si jamais ce que je reçois, c'est pas conforme à ce qui était annoncé sur le site web, j'ai toujours la rétrofacturation. Et comme de fait, c'était pas conforme, les robes étaient laides. Et le marchand en Chine ne voulait pas me rembourser les frais d'expédition de 12 $. J'ai fait une demande de rétrofacturation auprès de mon émetteur de cartes. Il m'a dit, nous, on est en Ontario, on n'est pas soumis à ça, la loi du Québec. Puis finalement, j'ai tellement insisté qu'ils m'ont dit, en gros, là, je vais vulgariser un peu, là, mais on te rembourse ton 12$ parce que tu es fatigante puis que c'est un petit montant, mais nous, on ne reconnaît pas que ça existe, ça, la rétrofacturation. Donc, on voit que c'est vraiment pas tout le monde encore ou toutes les institutions financières qui sont au fait ou qui appliquent les règles comme il faut.
Sauf que la grande banque ontarienne avait tort, elle était soumise à la loi québécoise.
Tout à fait. Si on fait affaire au Québec, on est soumis aux lois du Québec.
Ma blonde m'a commandé un clipper pour me raser le coco. Clipper qui est arrivé, je pense qu'il est arrivé après 2, 3, 4 mois, là, je ne me rappelle pas. Si je fais une commande en ligne et je ne reçois juste pas mon produit, là, qu'est-ce que je peux faire?
Mais si tu ne reçois pas ton produit, normalement, il va y avoir une date de livraison qui va être prévue. Donc, après 30 jours de la date prévue, si ce n'est toujours pas arrivé, tu as le droit de procéder de la même façon. Annulation auprès du commerçant, 14 jours pour rembourser. S'il ne rembourse pas, demande de rétrofacturation. Même affaire.
OK. Puis pour les billets d'avion, les billets de spectacle, ou je ne sais pas, moi, j'ai réservé quelque chose en quelque part, une salle de spectacle au moment où c'était ouvert. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, pour un événement qui est à une date précise, si au jour de ton spectacle ou de ton vol ou de ta réservation d'hôtel ou peu importe, tu n'as pas reçu la documentation nécessaire pour pouvoir assister à ton événement, prendre ton avion, ton train, peu importe, bien, c'est sûr que là, tu n'as pas besoin d'attendre 30 jours. Tu peux tout de suite procéder à l'annulation, remboursement, rétrofacturation.
OK. Bien, imaginons là, que j'ai raté mes 7 jours, j'ai raté mes délais légaux, là. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis faite ou s'il y a des choses à faire encore?
Mais si tu as raté tes délais légaux, tu peux quand même profiter de la procédure de contestation de ton émetteur de carte de crédit.
La vieille procédure.
La vieille procédure, elle existe encore. Mais c'est certain que là, il y a plus d'arbitraire qui est permis par la loi. Puis sinon, tu ne perds pas tes recours devant les tribunaux. Tu as le droit de poursuivre un commerçant devant le tribunal si ce qu'il te livre, c'est pas bon, s'il y avait une fausse représentation parce que c'était pas le bon prix ou si, par exemple, ce que tu reçois, c'est brisé. Ça, c'est certain, mais quand même, si ton commerçant il est en Chine, même si tu gagnes ici, bonne chance pour faire exécuter ton jugement.
Bon. On va terminer avec d'autres cas de figure. Là, je pense à ça en parlant. Mettons que je commande un truc que j'ai vu en ligne. Il n'y en a plus en stock ou alors ils sont trompés dans le prix, je ne sais pas trop. Et là, ça m'arrive puis le prix n'a plus de bon sens par rapport à ce que j'avais vu. Qu'est-ce que je peux faire?
Bon, tantôt, on parlait de la fiction juridique comme quoi le contrat y est conclu au moment où j'envoie ma commande et non pas au moment où le commerçant y reçoit mon acceptation de son offre. Donc, ça vaut encore. Donc, au moment où moi, j'envoie ma commande, le contrat y est né, il crée des obligations. Donc, s'il n'y a plus de stock ou s'il y a une erreur de prix, j'ai quand même droit d'avoir la marchandise que j'ai commandée au prix que j'ai commandé. Et puis le commerçant, lui, il y a des obligations. Là, s'il n'y a plus de stock, il doit quand même, tu sais, il devrait mettre en place un système qui fait en sorte que tu ne peux plus passer de commande quand il n'y a plus de stock. Puis il n'a pas le droit de te vendre à un prix supérieur au prix qui est annoncé. Ça, c'est la loi. Donc, il doit te fournir la marchandise. Puis s'il annule, tu as des recours, encore une fois, devant les tribunaux.
En terminant, il ne peut pas plaider l'erreur de prix?
Non, il a le droit de faire des erreurs. Ce qu'il n'a pas le droit, c'est de te vendre à un prix supérieur. Après que toi, tu as fait en sorte de mettre l'erreur sous son nez, il a le droit de corriger l'erreur pour tous les suivants, là, il a le droit, mais tous ceux qui ont déjà acheté avant qu'ils se rendent compte de son erreur, ils ont droit au prix que l'erreur. Comme dans les magasins, quand tu trouves une erreur sur une étiquette, tu as toujours le droit au prix de l'étiquette.
Élise, on va se quitter là-dessus. Je te remercie beaucoup. Puis écoute, je t'ajoute des remerciements plus chaleureux et plus particuliers que d'habitude parce que à ma grande tristesse, c'est la dernière fois qu'on va se parler. Tu vas quitter Option Consommateur pour d'autres sujets. Écoute, ça a été un plaisir immense, mais vraiment un grand plaisir de travailler avec toi. Et je suis de tout cœur avec toi pour ta nouvelle vie professionnelle. Je te souhaite la meilleure des chances possible.
Bien, merci, Pierre. C'est un plaisir partagé.
Se déplacer pour aller magasiner, ça demande quand même un effort. Il faut faire la route, trouver un stationnement si on est en voiture, parcourir les différents commerces. Tout ça nous empêche probablement de tomber dans la surconsommation, dans une sorte de dépendance aux achats. Mais là, vous le savez comme moi, en quelques clics à peine, on a la plus belle robe ou la bébelle électronique la plus tripante qu'on ait jamais vue. C'est beaucoup plus facile, surtout si on a une petite tendance au départ, de tomber dans la compulsivité et peut-être même dans la dépendance aux achats en ligne. On a demandé à Marianne Sirjury, une psychologue spécialisée en cyberdépendance, de nous aider à comprendre ce qui se passe quand ça arrive.
Bonjour Marianne.
Bonjour.
Évidemment, il y a énormément d'achats en ligne qui se font beaucoup plus depuis la pandémie. Ça a pu exacerber peut-être, là, augmenter certains problèmes que les gens avaient. On parle de cyberdépendance là, aux achats en ligne. À partir de quand, Marianne, est-ce qu'on peut dire qu'on a un problème avec les achats en ligne? Quels sont les symptômes là, qu'on peut identifier pour dire « ouais, ben, j'ai peut-être un léger petit problème ».
Ce qui nous permet de déterminer si ça commence à être un problème, c'est à partir du moment où la personne se sent comme incapable de résister à y aller, à aller acheter, à se procurer un bien, parce que c'est sûr que ça peut être agréable là, de procéder à certains achats, mais à partir du moment où la personne ressent cette envie-là irrésistible, puis que de façon répétée, elle va faire des achats, puis que là, c'est là qu'on bascule vers l'aspect plus compulsif. Après, on va se rendre compte que la personne éprouve des remords, de la culpabilité par rapport à ses achats, va regretter. Donc, quand on se retrouve dans ce type d'émotion-là, c'est sûr que le problème commence à être plus grand.
Qu'est-ce qui crée ça, là? Parce que tu nous parles d'une envie irrésistible. Ça vient d'où, cette envie irrésistible, finalement, d'acheter des choses dont on n'a probablement absolument pas besoin?
Souvent, ces comportements-là, ça va s'installer au fil du temps. C'est pas du jour au lendemain que quelqu'un va devenir acheteur compulsif. Donc, c'est sûr que c'est comme dans toute forme de dépendance, il y a des parallèles à faire. Au départ, le comportement, il est plaisant. Donc, ce qui fait que les gens le refont, c'est parce que le comportement est agréable. Si c'était pas agréable, il y a personne qui le
C'est comme la drogue. C'est comme la drogue.
Exactement. Donc, ça vient chercher ça vient stimuler justement la zone de récompense, les zones de plaisir. Donc, ça fait en sorte que les gens vont le refaire. Puis c'est ce qui est un peu à la base de la survie de l'espèce. Les comportements, au départ, qui étaient plaisants, visaient à ce qu'on les reproduise pour justement assurer la survie de l'espèce. Donc, okay. C'était agréable de manger, puis c'était agréable de se reproduire. Donc, c'est pour ça que
c'est associé à ça. À la base de l'envie, là, Marianne, il y a un genre de tension, là. Il y a quelque chose, là. Il y a un problème en fin de vie, je présume, là.
Ce qui est souvent à la source, c'est ça, c'est d'autres problèmes qui sont sous-jacents. Donc, ça, c'est intéressant de faire, des fois, d'arrêter puis de regarder qu'est-ce qui se passe quand on devient plus obsédé par les achats. Donc, des fois, ça peut être des stresseurs. On sait qu'on est dans une période de pandémie, donc il y a plus de stresseurs présentement. Des fois, il y a des problèmes non résolus qui font en sorte que ça devient un peu une soupape. Donc, vu que c'est agréable, ça permet de soulager, d'abaisser les tensions, puis ensuite de se sentir mieux, mais c'est très temporaire, c'est très éphémère.
OK, donc c'est ça, là. L'espèce de schéma, là, c'est qu'il y a une tension de départ, on va vers l'achat en ligne, il y a un apaisement, mais cet apaisement-là ne fonctionne pas parce que tu nous as parlé de remords, de culpabilité, puis évidemment, mm-hmm. Il y a des dettes qui risquent de s'accumuler aussi, je présume.
Exactement. Donc, c'est de très courte durée. Donc, à un moment donné, au fur et à mesure que l'habitude s'installe et que tranquillement, le comportement devient plus obsessif, c'est des fois même plus le résultat qui est important, c'est plus l'anticipation du plaisir qui prend de la place. puis rendu même au résultat concret d'avoir acheté ou de s'être procuré le bien, bien déjà l'effet d'apaisement est plus là parce qu'on se retrouve avec des émotions ou de la souffrance ou des éléments plus négatifs.
Bien, évidemment, il y a des degrés divers parce que je rigolais avec ma blonde avant. Là, je regardais ce qu'on s'était dit, toi et moi. Et puis là, j'ai fait passer un petit examen et puis elle disait « Oups, oui, j'ai des remords. Oups, oui, j'ai de la culpabilité. Bon, évidemment, il y a des degrés. Là, je pense qu'on peut être victime d'une certaine forme de cyberdépendance. Je présume qu'il n'est pas si dramatique ni grave que ça. Comment on peut réagir? Si on veut là, se dire, OK, bon, je pense que sans avoir un gros problème, je pourrais commencer à en avoir un. Comment on peut réagir puis essayer de changer ce comportement-là?
C'est vrai qu'il y a comme un continuum. Là. C'est pas tout le monde qui est dans des niveaux extrêmes de dépendance ou d'achat compulsif. Donc, il y a toute une gradation à l'intérieur de ça. Donc, à partir du moment où on commence à identifier que ça devient souffrant, bien, déjà prendre le temps de s'arrêter puis de regarder bien, comment je me sens, dans quel moment j'ai tendance à y aller ou à y avoir recours. Est-ce que c'est plus souvent quand je reviens du travail ou c'est quand je suis confrontée à une situation X? Donc, le fait d'observer un peu plus le comportement va permettre de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui est à la source de ça. Et ensuite, de réfléchir à quelle autre solution je pourrais mettre en application pour gérer ou en tout cas répondre différemment à ce besoin-là qui est à la source.
OK. Mais donc, essayer d'identifier la source de... Tu sais, on parlait de tension tantôt. Essayer d'identifier l'origine de la source. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est la pandémie ou je ne sais pas quoi? Mais tu dis comment... Il y a des moyens externes à la réflexion et des moyens externes qu'on peut prendre, là, des gestes qu'on peut poser, là, je présume, pour s'empêcher de tomber là-dedans.
Exactement. Il y a des fois des petites stratégies qu'on peut utiliser qui sont peut-être d'enlever ou supprimer les applications de notre téléphone qui nous permettent de faire des achats. Donc, c'est sûr que moins ça va être accessible, plus ça va être facile aussi à gérer. Donc, il y a tout le temps cette notion-là d'accès. Là, plus on y a accès facilement, plus ça va être difficile de résister. Il y a peut-être aussi de ne pas enregistrer ses coordonnées bancaires pour justement faire un frein à l'achat pour pas que ce soit aussi simple. Donc, et arriver à se poser plus de questions, dire « OK, est-ce que j'en ai vraiment besoin de cet article-là? Est-ce que je peux attendre, y penser, peut-être procéder à l'achat à un autre moment, le lendemain? » Donc, des fois, c'est toutes des stratégies qui sont assez simples, mais qui peuvent permettre de ralentir puis de se questionner par rapport à l'usage.
Oui, on est assez bombardé aussi des infolettes, de la publicité. Il y a tout ça qui nous arrive. On peut travailler là-dessus aussi, j'imagine.
Exactement. Se désabonner des infolettes, c'est sûr que si on ne reçoit pas constamment... on le voit hein, dans des périodes charnières, la période des fêtes, quand à chaque fête commerciale, on reçoit plusieurs informations là-dessus avec des offres d'achat. Donc, c'est sûr que plus on va être sollicité, plus ça va être difficile de résister dans certains cas.
On est tous sous tension. Bon, il y a la pandémie, Noël, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça. Tout le monde se pose la question. On est tous sous pression. Qu'est-ce qu'on peut faire, parce que ça touche à tout ça là aussi, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réagir face à ça?
Ce qui est souvent le plus efficace, je dirais, dans cette problématique-là, mais dans l'ensemble des problématiques, c'est d'arriver peut-être à avoir une meilleure hygiène de vie. Donc, quand on vient à la base, c'est-à-dire d'avoir des activités plaisantes un peu à chaque jour, de faire de l'activité physique pour arriver à mieux gérer le stress du quotidien. Donc, ça, c'est des choses qui permettent d'être vraiment à la base, mais qui vont être utiles dans n'importe quelle situation, puis qui permettent de retrouver un équilibre. C'est-à-dire que oui, des fois, on va se divertir peut-être en utilisant les technologies, mais il y a d'autres fois, on va trouver d'autres façons, d'autres sources de divertissement.
Et souvent, les gens disent c'est tellement dur se motiver. Je sais pas, j'ai pas la force de faire un effort. Là. Comment on peut faire quand on se sent comme ça?
Ce qui est le plus simple, c'est d'y aller peut-être une étape à la fois, par plus petite étape. Donc,
prendre une marche de 5 minutes, par exemple.
Exactement. Donc, peut-être commencer. Vaut mieux 5 minutes que rien du tout. Donc, moi, c'est souvent ce que je dis à mes clients. Donc, y aller peut-être par plus petites étapes, puis voir ce qui a été fait plutôt que ce qui n'a pas été fait.
Bon. les gens peuvent se guérir un petit peu de leur cyberdépendance, mais ils peuvent y revenir. On appelle ça une rechute, là, comme dans n'importe quelle dépendance. Est-ce que c'est bien grave là, quand on tombe en rechute? Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter?
Bien, je pense que la rechute est un indicateur que ce qu'on avait mis en place a été mis de côté. Et c'est un indice que c'est important de revenir aux moyens, aux stratégies là, qui ont été développées. Je pense que c'est une occasion d'apprentissage. Donc, justement, d'arriver à dire, OK, qu'est-ce que j'ai laissé de côté? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ça permet vraiment de mieux comprendre ensuite comment on réagit aux situations okay. Puis de trouver encore les meilleures solutions.
Puis la solution ultime, c'est d'aller voir quelqu'un comme toi. Tu es une psychologue spécialisée en cyberdépendance. Alors, je présume que la thérapie, là, ça peut être une des solutions là, si vraiment on sent qu'on tombe dans un... qu'on commence à tomber dans le gouffre, là.
Exactement. D'aller consulter, c'est sûr qu'il y a plusieurs psychologues là, qui peuvent aider les gens. Qu'il y a un service de référence sur l'Ordre des psychologues du Québec si les gens ont besoin de consulter. Puis des fois, pour aller plus loin aussi dans certains conseils, j'explique quand même beaucoup le phénomène de la cyberdépendance puis les différentes formes dans mon livre. Donc des fois, ça peut être un premier point de départ aussi. Okay.
Comment il s'appelle ton livre? On va finir là-dessus.
Cyberdépendance quand l'usage des technologies devient un problème.
Cyberdépendance quand l'usage des technologies devient un problème. On espère qu'on ne tombera pas dedans, dans le problème.
Oui, on le souhaite.
Mon livre, on va le... Merci beaucoup, Maria. Merci.
Merci.
Vous avez d'autres questions? Vous vivez d'autres genres de situations? Suivez Options Consommateurs sur Facebook ou Twitter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. L'année 2020 a été très dure et elle continue de l'être, on le sait. Comme vous, j'ai pas reçu mes enfants ni mes petits-enfants à la maison depuis la mi-mars. Vous savez, je viens d'avoir 69 ans et chaque année m'est vraiment précieuse. C'est pour ça que je me protège. C'est pour ça que je protège mes concitoyens parce que tout ça est tellement précieux et unique. Alors pour Noël, ça va être ma blonde et moi. J'ai comme l'impression qu'on va laisser faire la tourtière pour 15 personnes, comme chaque année on fait. Mais ce que je me dis, c'est que je vais être encore là longtemps pour profiter de tout ce qui est beau et bon et continuer à recevoir ma famille et mes amis dès qu'on le pourra. Alors, je vous souhaite la santé, un très joyeux Noël et une bonne année. Allez, on se retrouve le 14 janvier.